Bonjour, je m'appelle Violette, je suis avec Jade, Manon et Lila.
Bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Bah oui. Ça va et toi?
Ça va. Aujourd'hui, nous abordons le thème du féminisme. Nous allons commencer avec Lila. Elle aura un débat qui aura pour question « Est-ce que la femme peut s'habiller librement sans en payer les conséquences ?» Nous continuerons avec Jade qui nous présentera l'artiste Théodora avec la musique Fashion Designer. Ensuite, nous aurons Alice qui nous parlera des inégalités salariales dans le monde du travail avec la question « Qu'est-ce que les inégalités salariales entre hommes et femmes ?» Et nous finirons avec Manon. Son débat sera avec la question « Pourquoi les femmes sont-elles encore trop souvent sexualisées dans le monde des médias ?» Nous allons donc commencer avec le débat de Lila.
Bonjour à tous, comme l'a si bien dit Violette, nous allons commencer par un débat. La question est, est-ce que la femme peut s'habiller librement sans en payer les conséquences? Nous allons introduire cette grosse question sous forme de trois petites questions. La première est, est-ce que les filles peuvent s'habiller librement dans un établissement privé comme public? Alice?
Moi je pense qu'il y a des règles à respecter dans le règlement, on voit qu'il y a des choses qu'on peut pas mettre. Mais après, je trouve ça plutôt normal parce qu'on est au lycée, donc.
Manon ?
Moi, je suis d'accord avec elle. Je pense qu'il y a des choses à respecter, mais après...
Je suis d'accord avec Alice, mais je pense qu'il y a aussi des règles à respecter. Mais c'est important de laisser la liberté d'expression à chaque fille qui veut. Ça devrait être normal de pouvoir s'habiller comme on veut.
Bah, moi, je vais rebondir sur ce que disent les filles. Enfin, je pense qu'on devrait quand même être un peu plus libre, mais qu'il y a quand même certaines règles à respecter.
En effet, je pense que plus de libertés sont accordées dans le public que dans le privé. Ensuite, faut-il autoriser toutes les tenues au lycée?
Moi, je pense qu'il y a quand même des tenues à garder, genre hors scolaire, parce que, enfin, on va pas s'habiller pareil pour aller à la plage que pour aller au lycée. Mais sinon, il y a quelques vêtements, je trouve que c'est un peu trop strict, genre les hauts à bretelles. Enfin, en soi, ça fait rien. Et voilà.
Moi, je suis d'accord avec Jade. Enfin, c'est normal qu'on vienne pas en mini jupe crop top très court au lycée. Mais après, si on veut mettre des jupes, on devrait pas se poser la question de est-ce qu'on peut ou pas.
Moi je trouve aussi qu'il devrait y avoir quand même un petit peu plus de liberté, parce qu'il y a quand même des règles qui sont strictes, mais après on est quand même dans un établissement où faut respecter quand même certaines règles, où je suis d'accord avec les filles.
Donc effectivement, certaines tenues ne sont pas adaptées à un milieu scolaire. Et est-ce que le port de l'uniforme permettrait au moins de commentaires sur la tenue? Manon.
Je pense qu'en soi, oui, ça limiterait peut-être des remarques, des commentaires, etc. Mais je pense qu'avant de vouloir empêcher aux filles de s'habiller comme elles veulent, il faut peut-être d'abord éduquer les garçons. Et voilà.
Moi, je suis d'accord. Enfin, en fait, je trouve que mettre un uniforme, ça pourrait limiter les commentaires, mais sauf que on enlève un peu de la personnalité aux gens, parce que leurs habits, c'est quand même la personnalité, et il y a un peu moins du coup de liberté d'expression, parce que si on peut pas s'habiller comme on veut, après c'est sûr qu'il y a quand même des avantages, qu'il y a moins de commentaires, qu'il y a moins de commentaires quoi.
Moi, je suis totalement d'accord avec les filles. Ça permettrait d'enlever les remarques, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne chose d'obliger les gens à s'habiller pareil. Surtout que souvent, les uniformes, c'est garçon pantalon et fille jupe. Donc en vrai, ça reviendrait un peu au même que si on s'habillait normalement.
Donc en effet, ça limiterait les commentaires néfastes vis-à-vis des tenues. Donc on va répondre à la grosse question. Donc, est-ce que la femme peut s'habiller librement sans en payer les conséquences? Et la réponse est que non, selon les différents contextes et les différents endroits.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Nous allons passer le micro à Jade qui va nous parler de sa musique.
Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire écouter la musique Fashion Designer de la chanteuse Théodora. Théodora est née le 23 octobre 2003 en Suisse dans une famille immigrée congolaise. Rappeuse franco-congolaise, elle s'impose aujourd'hui comme l'une des voix essentielles de la scène pop. Son entrée dans la musique est en partie liée à son frère compositeur, grâce à qui elle se lance dans le monde de la musique. Des Congolis sous BBL, sorti en septembre 2024, qui fait véritablement connaître Théodora, un titre qui a fait vibrer toute une génération. Artiste libre, elle assume pleinement sa personnalité tout comme son corps et propose une représentation moderne du féminisme en cassant les codes. Comme elle l'a déclaré dans une interview, je suis contre la fausse humilité.
Merci beaucoup Jade, laissons parler Alice sur les inégalités salariales.
Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de société et plus particulièrement de femmes. C'est un sujet important aujourd'hui où trop d'inégalités persistent. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur les inégalités au travail, donc il en existe plusieurs, par exemple les inégalités salariales, la dévalorisation de certains secteurs, donc c'est-à-dire peu de femmes au poste à responsabilité, etc. Les carrières féminines plus facilement mises entre parenthèses ou les femmes moins embauchées avec les grossesses, etc. Parmi toutes celles-là, je vais surtout parler des inégalités salariales. Donc actuellement, quand on parle de ces inégalités, on pense au pourcentage d'argent que les femmes gagnent en moins que les hommes. Donc il y en a plusieurs et c'est un peu difficile de savoir sur lequel se concentrer. Donc celui auquel on pense en premier, c'est qu'en moyenne, une salariée française gagne 22,2% de moins que les salariés français. Ce pourcentage regroupe tous les temps de travail confondus, donc c'est-à-dire temps partiel et temps complet rassemblés. Mais pour moi, le plus important, c'est le pourcentage de différence entre un homme et une femme qui font le même travail au même moment et pendant le même temps, qui lui est de 3,8%. Je trouve que c'est pas normal dans notre société, on devrait pouvoir faire changer les choses. Donc on va parler d'un exemple qui nous parle tous, le cinéma. Donc d'après un classement établi en 2017 par le magazine Fabs, Mark Wahlberg est au sommet de la liste des plus gros salaires hommes avec 68 millions de dollars. Et son homologue féminin, Emma Stone, occupe la même position, mais avec entre guillemets seulement 26 millions de dollars. Et je terminerai cette chronique sur une date importante qui est que cette année, depuis 11h31, le lundi 10 novembre, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Donc courage à vous, Madame Chiron et Madame Brouillard, de travailler gratuitement. On peut retenir, après toutes ces informations, qu'il faut qu'il y a de quoi se poser des questions. Merci à tous pour votre écoute. Bonne journée.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. Passons le micro à Manon qui va nous parler de la sexualisation des femmes sur les médias.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que les femmes sont trop souvent sexualisées dans les contenus médiatiques. Il vous suffit d'ouvrir une application, un jeu vidéo ou un clip ou même un dessin animé pour se rendre compte que le corps des femmes reste encore aujourd'hui un outil marketing. Dans ces différents milieux, on voit que le corps des femmes est souvent réduit à un corps hypersexualisé, des tailles minuscules, des jambes interminables et des lèvres pulpeuses, ou même des tenues impossibles à porter dans la vraie vie. Alors posons-nous la question, pourquoi les femmes sont-elles encore trop souvent sexualisées dans les publicités, les clips ou même les réseaux sociaux, et quel effet cela produit-il sur le public? Et est-ce que dans ces images, pouvons...
Désolée, c'est bizarre.
Est-ce que ces images peuvent-elles influencer la façon dont on voit les femmes dans la vraie vie? Lila, t'en penses quoi?
Je pense... Donc je pense que la photo de... Enfin, les femmes...
En fait, je sais pas... Attendez, je peux reposer la question?
Alice, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je trouve que sur les réseaux ou dans les clips, etc., c'est toujours des femmes parfaites, toutes fines, etc. Et du coup, les garçons, surtout, c'est un peu la représentation qu'ils font des femmes en général. Et du coup, quand ils voient des femmes, entre guillemets, normales, qui sont pas parfaites, et ben eux, ils les trouvent grosses ou je sais pas. Et du coup, c'est un peu dommage, quoi.
En fait, c'est un peu dénigrant pour la femme de savoir qu'elle est réduite à une personne un peu, enfin pas moche, mais par rapport aux images que les gens peuvent voir d'elle sur les réseaux.
Moi personnellement, je trouve que, enfin de toute façon, c'est qu'un effet de mode, genre en ce moment, il y a, enfin sur les réseaux, il y a plus des filles qui sont plus maigres, etc. Mais enfin, je veux dire, c'est pas la vraie vie, et ça se trouve, dans un an, ça va changer l'effet de mode. Et aussi, c'est, de toute façon, c'est jamais la vraie vie parce qu'il y a par exemple des logiciels qui permettent de se retoucher et du coup, ça rend pas du tout la même image pour les autres. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des filles qui n'arrivent pas à s'assumer parce que du coup, ça renvoie cette image-là, quoi.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense que finalement, la vraie diversité des corps devrait être valorisée autant que des images qu'on dit soi-disant parfaites. Est-ce que ça peut changer vraiment la façon dont les filles se voient elles-mêmes physiquement?
Je pense que oui, parce que du coup, elles se voient moins belles que les autres par rapport à celles qu'elles voient sur les réseaux, qui sont sûrement retouchées ou... Voilà quoi.
Alice, tu en penses quoi?
Moi, je trouve qu'à cause de ça, on se compare beaucoup trop et que du coup, forcément, ça enlève la confiance en soi, enfin... aussi, et du coup, voilà.
Moi, je suis d'accord avec les filles, parce que du coup, sur les réseaux, il n'y a que des filles, entre guillemets, parfaites, genre retouchées ou pas, mais juste, grande, maigre, bien maquillée et tout. Et du coup, dans la vraie vie, c'est plus compliqué de s'assumer, et donc, voilà.
Je pense qu'il est important d'apprendre à prendre du recul sur les images qu'on peut voir. Parce qu'entre la chirurgie, les retouches et le maquillage, ça change vraiment de ce que est la personne en vrai. Je pense que pour s'accepter comme on est, faut voir sur internet. Pour s'accepter comme on est. Les filles, est-ce que vous pensez que ces images, l'image des femmes, elle a changé ces dernières années?
Moi, personnellement, je trouve que oui, parce que il reste encore une majorité de filles qui sont idéalisées avec des grandes, fines, etc. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de diversité et de femmes qui veulent lutter contre l'image qu'on se fait en général. Et du coup, je trouve que c'est aussi un effet de mode et que ça va changer.
Moi, je suis d'accord parce que, par exemple, pour les Miss France, maintenant, ils acceptent les filles plus petites, plus rondes ou tatouées. Donc, ça change au fur et à mesure du temps.
Moi, je rejoins ce qu'avait dit Juliette tout à l'heure, que c'est un effet de mode parce que, par exemple, là, en ce moment, sur les réseaux, c'est un peu les clean girls, etc. Alors qu'à tout moment, dans quelques années, ça sera l'inverse. Et donc, voilà.
Pour conclure, je pense que les images idéalisées, elles influencent vraiment le regard qu'on a sur nous. Mais après, avec le temps, ça peut changer, comme les Miss France, etc. Ou maintenant, une fille qui a les cheveux courts ou longs, il y a 2 ans, c'est tout aussi beau. Donc merci les filles pour avoir participé au débat.
Je vous remercie toutes d'être venues pour répondre aux questions et d'avoir partagé vos débats, etc. Cette séance est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Au revoir, merci.
Au revoir.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio G. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Léon. Bonjour.
Bonjour.
De Léo.
Bonjour.
Ainsi que de Télio.
Bonjour.
Et enfin de Victor, notre Bonjour. Réalisateur. Le sujet que nous allons présenter aujourd'hui est d'actualité et très intéressant. Aujourd'hui, nos 3 chroniqueurs vont nous parler de l'IA. On commencera tout d'abord par la chronique de Léo. Ensuite, nous aurons un débat sur l'IA animée par Léon, et ensuite on terminera par la chronique de Télio, sans oublier une petite pause musicale. Allez, on passe tout de suite la parole à Léo pour sa chronique sur les risques de l'IA.
Bonjour à tous, alors comme on l'a dit précédemment, je vais vous parler des risques de l'IA, qui sont souvent plus nombreux qu'on le croit. Déjà on peut parler d'un risque sur la confidentialité de nos données. Parce qu'on ignore souvent, mais l'IA, elle a besoin de pas mal de données pour fonctionner, pour mieux en fait répondre à nos questions par la suite. On estime par exemple que ChatGPT-4 a récolté environ 1,8 trillion de données, qui sont parfois même sensibles. Ça peut être des données financières ou sur votre santé par exemple. L'IA également, elle peut s'enfermer dans ce qu'on appelle une spirale de données. Alors en fait, une spirale de données, c'est quoi? C'est quand la qualité en fait de ces productions, elle s'effondre peu à peu. Pour vous donner un exemple, c'est un petit peu comme si vous mettiez une feuille à photocopier et que vous le faisiez à l'infini. La qualité à la fin, le rendu, il va être de moins en moins bon. Beaucoup de gens s'en rendent compte également, surtout de nos jours, mais l'IA générative, elle entraîne elle-même une saturation de ses contenus. Et on peut dire que des fois, elle se trompe ou même elle hallucine. Par exemple, on estime aujourd'hui qu'il y a environ 40% des réponses que nous donne ChatGPT qui sont incorrectes. Et surtout, l'IA, elle favorise certains types de réponses qui sont très peu objectives. Et un dernier risque également de l'IA, et on va en parler surtout après durant notre débat, mais c'est la... le risque qu'elle prenne nos métiers en fait, souvent on en parle beaucoup en ce moment, mais le risque que certains métiers disparaissent. Merci de m'avoir écouté.
Merci Léo pour cette intervention plus qu'intéressante et on laisse tout de suite la parole à Victor qui va nous présenter la fameuse musique Top 1 des tendances sur YouTube.
Bonjour, alors on va s'écouter la musique C'est nous dans le top d'Unchained, d'un youtubeur très suivi en ce moment sur les réseaux. J'ai choisi ce titre parce qu'il parle d'un phénomène qui a marqué les réseaux, des personnages générés par IA. On les appelle les brain rot. Cette musique montre bien l'impact de l'IA sur les tendances actuelles et sur la façon dont le buzz se fait. Mode brain rot, yeah yeah yeah. Unchain en top, je me go encore une fois. Grind en boucle, y'a pas le choix. J'garde le focus, évite les pièges. Ils veulent me scammer, je les unchain. Je lock le spot, j'avance droit vers le top. Brain rot, c'est nous dans le top. Brain rot, c'est nous dans le top. Brain rot, brain rot, c'est nous dans le top. Brain rot. C'est nous dans le top, brain rot. Parti d'un pizza nini, maintenant j'ai le strawberry. Ceux qui doutent qu'à la app, j'trace ma route depuis Gap. J'ai bâti mes rêves en pixels, j'ai plus le temps de penser à elle. T'inquiète pas, moi j'pense à elle. Pitchonnet à Makuna. Brain rot. C'est nous dans le top, brain rot. C'est nous dans le top, brain rot. Brain rot. C'est nous dans le top, brain rot. C'est nous dans le top, brain rot. La team French tacos dans le top. Tu me voles, je vais te retrouver. Strawberry, éléphant gold. Va pleurer comme un bébé. 1 billion, c'est le minimum. Team Unchain dans le podium. Team Dragon, Canonomie. Spaghetti, duality. Brain rot, c'est nous dans le top. Brain rot, c'est nous dans le top. Brain rot, brain rot, c'est nous dans le top. Brain rot, c'est nous dans le top. Brain rot, les roulés, roulés, roulés.
Merci Victor pour cette entrevue musicale très intéressante avec cette musique d'actualité qui nous parle donc de brain rot. On passe tout de suite la parole à Léon qui va nous animer un débat sur l'IA.
Bonjour, merci Éloine. Alors aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle. Est-elle une menace pour le travail ou au contraire une opportunité pour les salariés? L'intelligence artificielle, meilleur employé du mois, on en parle tout de suite avec nos invités. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va-t-elle tous nous remplacer à terme? Écoutons ce que en pense le milliardaire Elon Musk. C'était à Washington, lors du forum d'investissement entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, le 19 novembre dernier. On l'écoute, on en parle après.
Disons qu'à long terme, où cela va-t-il nous mener? À long terme, peut-être dans 10, 20 ans, quelque chose comme ça, je prévois que le travail devienne facultatif. Je veux dire, ce sera comme faire du sport. Disons qu'à long terme, où cela va-t-il nous mener?
Telio, est-ce qu'il faut prendre ces déclarations d'Elon Musk au sérieux?
Je pense que vu les progrès de l'intelligence artificielle ces dernières décennies, il est possible que certains métiers soient remplacés dans les prochaines décennies.
Ok, merci. Éloine, je vois que tu réagis avec ce que dit Telio. Est-ce que tu es d'accord avec lui?
Je suis d'accord avec lui que ça va. Beaucoup de métiers vont être remplacés, mais je ne sais pas si ça va vraiment être une bonne chose, parce que ça va sûrement supprimer plein d'emplois et mettre beaucoup de personnes au chômage, donc. Je ne sais pas.
Ok, merci. Est-ce que toi, Léo, tu es un peu du même avis qu'Éloine sur ce sujet?
Bah, c'est vrai que je pense que le travail va devenir facultatif, mais ce qu'il dit pas, c'est que ça va appauvrir encore plus d'autres personnes. Ça, c'est pas à négliger non plus.
Merci. Victor, est-ce que pour toi, il n'est pas un peu trop tôt pour savoir quel serait vraiment l'impact de l'IA sur l'emploi?
Je pense que la technologie évolue très vite et certaines entreprises essaient déjà de l'intégrer. Il y a déjà des métiers qui vont être transformés, mais d'autres vont apparaître. Mais pour l'instant, elles changent juste la manière de travailler et elles ne suppriment aucun poste.
Merci beaucoup Éloane, Télio, Léo et Victor d'avoir participé à ce débat.
Et merci à Léon, à toi aussi pour ce débat très captivant. N'hésitez pas à réfléchir chez vous non plus sur le sujet. Et on donne tout de suite la parole à Télio pour la dernière chronique aujourd'hui sur l'IA créative.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, on entend parler d'intelligence artificielle partout. Et ce qu'on sait moins, c'est que l'IA devient aussi créative. Alors forcément, on peut se poser une question assez étonnante. Est-ce qu'une machine peut devenir un artiste ? Est-ce qu'elle peut créer quelque chose qui nous touche autant qu'un tableau ou une musique faite par un humain ? On voit maintenant des intelligences artificielles capables de créer des images juste à partir d'une phrase. Par exemple, si vous demandez un chat qui joue de la guitare sur une plage, l'IA vous sort ça en quelques secondes comme si c'était complètement normal. D'autres intelligences artificielles peuvent composer de la musique, écrire des histoires ou même inventer de nouveaux styles artistiques. Et parfois, le résultat est tellement bien fait qu'on a du mal à croire que c'est une machine qui l'a créé. Mais la vraie question c'est, est-ce que tout ça, c'est vraiment de l'art ? Parce que, contrairement à nous, une IA ne ressent rien. Elle n'a pas d'émotion, pas d'inspiration, pas d'expérience personnelle. Elle apprend juste à partir de milliards d'images, de textes ou de musiques, et elle mélange tout ça pour créer quelque chose de nouveau. Et pourtant, ce qu'elle produit peut vraiment toucher des gens. Il y a même eu un portrait créé par une IA qui s'est vendu pour plus de 400 000 dollars. Alors si une œuvre faite par une machine arrive à émouvoir le public, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce n'est pas de l'art ? Le problème, c'est que l'IA, elle, ne vit rien du tout. Elle ne connaît ni la joie, ni la tristesse, ni la peur, ni l'amour. Elle se contente de recycler des éléments qui existent déjà. Certains diront donc qu'elle n'invente rien, qu'elle ne fait qu'imiter. Mais d'un autre côté, est-ce que l'art, ce n'est pas surtout l'émotion qu'on ressent quand on voit l'œuvre ? Si quelque chose créé par une machine nous touche, nous surprend ou nous fait réfléchir, est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Aujourd'hui, on peut dire que l'IA est un outil super puissant pour créer. Elle peut nous aider à imaginer, à inventer et même à repousser les limites de ce qu'on pensait possible. Mais est-ce que ça en fait un artiste ? Probablement pas. En tout cas, pas encore. Alors peut-être que l'art du futur sera un mélange entre l'humain et la machine. Et finalement, c'est à nous de décider comment on veut utiliser cette nouvelle créativité. Merci de m'avoir écouté. Bonne fin de journée.
Eh bien, merci Télio pour cette chronique pleine d'idées et d'inspiration. Et voilà, c'est fini. C'était notre émission spéciale sur l'IA. Avant de se quitter, je souhaiterais remercier nos invités. Merci Léon.
Merci beaucoup à toi, Éloane.
Merci Télio.
Merci de m'avoir accueilli.
Léo.
Merci et au revoir.
Et Victor.
Merci.